Chapitre 8. Ce qu'on aime. Parfois, c'est ça aussi l'amour. Laisser partir ce qu'on aime. Joseph O'Connor. Comté de Sonoma, Californie, dimanche matin. Tu n'aimes plus maman, n'est-ce pas? Demanda Charlie. Le break Austin longeait la côte découpée du Pacifique. Jonathan et son fils s'étaient levés à l'aube. Ils avaient quitté San Francisco par la Highway 1, traversant successivement la plage de sable noir de Muir Beach et le village bohème de Bolinas, dont les habitants détruisaient depuis des décennies tous les panneaux d'indication afin de se protéger du tourisme de masse. « Alors, tu l'aimes encore, maman ?» reformula le gamin. « Pourquoi me poses-tu cette question ?» demanda Jonathan en baissant le son de la radio. « Parce que je sais que tu lui manques et qu'elle voudrait qu'on vive encore tous les trois. » Jonathan secoua la tête. Il s'était toujours refusé à laisser croire à son fils que la séparation d'avec sa mère pouvait être provisoire. D'expérience, il savait qu'un enfant gardait souvent le secret espoir que ses parents se retrouvent un jour et il ne voulait pas que Charlie entretienne cette illusion. « Oublie cette idée, chérie. Ça n'arrivera pas. »« Tu ne m'as pas répondu, » remarqua le gamin. « Tu l'aimes encore un peu, non ?»« Écoute, Charlie, je sais que c'est difficile pour toi et que tu souffres de cette situation. Mes parents se sont séparés lorsque j'avais ton âge. Comme toi, j'étais très triste et je leur ai reproché de ne pas avoir fait d'efforts pour se rabibocher. J'admets volontiers que nous étions tous les trois plus heureux lorsque ta maman et moi, nous nous aimions. » Malheureusement, les histoires d'amour ne sont pas éternelles, c'est comme ça. Il est important que tu comprennes que cette époque est derrière nous et qu'elle ne reviendra pas. Maman et moi, on s'est beaucoup aimés et tu es le fruit de cet amour. Rien que pour ça, jamais je ne regretterai cette période. Devant son fils, Jonathan ne critiquait jamais Francesca dans son rôle de mère. D'ailleurs, s'il pouvait lui reprocher d'avoir été une épouse infidèle, elle était pour Charlie une formidable maman. Contrairement aux liens du couple, « les liens entre les parents et les enfants durent toute la vie », poursuivit-il, appliquant à la lettre les conseils des psys qu'il avait lus. « Tu n'as pas à choisir entre nous. Ta mère sera toujours ta mère, et je serai toujours ton père. Nous sommes tous les deux responsables de ton éducation, et nous t'accompagnerons dans les moments heureux de ta vie comme dans les coups durs. » Jonathan regarda le paysage à travers le pare-brise. Sinueuse et sauvage, la route serpentait le long de l'océan. Avec ses falaises déchiquetées et battues par le vent, l'endroit faisait davantage penser à la Bretagne et à l'Irlande qu'à la Californie. Il se sentait coupable de ne pas savoir parler à son fils avec des mots plus justes. Pour Charlie, la séparation de ses parents avait été brutale et inattendue. Jusqu'à présent, Jonathan avait pris soin de ne jamais entrer avec lui dans les détails de sa relation avec sa mère. Mais était-ce la bonne solution ? Oui, sans doute. Comment expliquer à un enfant la complexité des relations conjugales et les ravages de la trahison? Malgré tout, il se risqua à une précision. Je ne renie rien du passé, mais un jour j'ai compris que ta maman n'était plus la femme que je croyais connaître. Pendant les dernières années de notre mariage, j'avais été amoureux d'une illusion. Tu comprends? Arrête avec tes Tu comprends ou pas? Je sais pas trop, répondit l'enfant en faisant une drôle de moue. Et merde, pourquoi je lui ai dit ça ? Se désola Jonathan. Ils dépassèrent un troupeau de vaches, puis arrivèrent à leur destination, le petit village de pêcheurs de Bodega Bay. Situé à 60 km au nord-ouest de San Francisco, la localité avait acquis une renommée mondiale depuis qu'Alfred Hitchcock y avait tourné la plupart des scènes des oiseaux. En cette matinée d'hiver, la ville côtière s'animait doucement. Ils se garèrent sur le parking presque vide. Charlie sortit de la voiture et courut sur le ponton pour observer les otaries qui se doraient au soleil en poussant des cris de contentement. Sur le port, plusieurs stands proposaient des crustacés encore frétillants. Et, sous les hauts vents des restaurants, quelques vieux de la vieille se balançaient dans les rocking chairs tout en dégustant, malgré l'heure matinale, des tourteaux géants et des clam chowders. Comme il l'avait promis à son fils, Jonathan loua un petit bateau à la coque pointue qui ressemblait à une barquette marseillaise. « Allez, Moussaillon, cap au large !» Le plan d'eau était paisible, parfait pour naviguer. La coquille de noix s'éloigna de la côte, puis se stabilisa à 2 milles du port. Charlie sortit sa canne à pêche et, avec l'aide de son père, accrocha un verre à l'hameçon avant de lancer sa ligne. Jonathan vérifia le portable de Madeline, mais dans cette partie du comté, le réseau était inexistant. Gardant un œil attentif sur son fils, il alluma une cigarette et en savoura la première bouffée en observant la nuée de palmipèdes qui tournait autour du bateau. Décidément, Hitchcock avait été inspiré. L'endroit était envahi d'oiseaux de toutes sortes. Mouettes, cormorans, bécassines, goélands, dont les cris se mélangeaient aux cornes de brume des embarcations. « Dis, pourquoi tu fumes alors que ça fait mourir ?» demanda Charlie. Jonathan fit celui qui n'avait pas entendu et demanda à son tour « Ça mord ?» Mais l'enfant n'était pas décidé à abandonner sa croisade contre le tabac. « Moi, je n'ai pas envie que tu meurs !» dit-il, les yeux humides. Jonathan poussa un soupir. Comment lutter contre ça? Il capitula, écrasant sa clope après en avoir aspiré une dernière bouffée. Content? Content, répondit le gamin en retrouvant instantanément un visage rieur. Pendant ce temps à Deauville, la pendule du salon venait de sonner 19h. Un beau feu crépitait dans la cheminée. Raphaël et son père s'affrontaient autour de la table de billard. Assise sur le canapé en cuir capitonné, Madeline hochait la tête de façon mécanique, écoutant d'une oreille distraite le bavardage d'Isor, sa future belle-mère, tandis qu'à ses pieds, Sultan, le cocker anglais de la famille, bavait affectueusement sur ses chaussures neuves. Dehors, la pluie cognait contre les vitres depuis le début de l'après-midi.
« Oh, j'adore ce programme !»
s'exclama Isor, détournant soudain son attention de Madeline pour monter le son du téléviseur qui, en cette période de fin d'année, diffusait un énième bêtisier. Madeline profita de cette brèche pour s'extirper du canapé.
« Je vais fumer une cigarette !»«
Je croyais que tu avais arrêté !» protesta Raphaël.
« Ça vous tuera, chérie !»
renchérit Isor.
« Sans doute, admit-elle, mais il faut bien mourir de quelque chose, n'est-ce pas ?»
Sur ce, elle enfila sa parka et sortit sur la terrasse. Si la nuit était tombée depuis longtemps, un système sophistiqué de spots lumineux éclairait le petit manoir anglo-normand, mettant en valeur ses colombages et l'eau turquoise de la piscine. Madeline fit quelques pas le long de la terrasse couverte pour s'accouder à la balustrade. La propriété surplombait le champ de course, offrant une vue impressionnante sur Deauville. Elle alluma sa cigarette, tirant une première bouffée. Le vent fouettait son visage. Bercée par le bruit de la mer, elle ferma les yeux, essayant de faire le vide en elle. Le confort bourgeois et l'inertie de ses week-ends en famille provoquaient chez elle des sentiments contradictoires. Apaisement, tranquillité, révolte, envie de fuite. Peut-être qu'avec l'habitude... Le fond de l'air était glacial. Elle remonta jusqu'au cou la fermeture éclair de sa parka, rabattit sa capuche et sortit le téléphone de sa poche. Depuis ce matin, la plupart de ses pensées convergeaient vers Francesca Delillo, à qui elle avait parlé au téléphone la nuit précédente. Cette femme, son mystère, son histoire exerçaient sur elle une drôle de fascination. Leur conversation avait été brève, mais suffisamment marquante pour l'obséder toute la journée. Lorsque Francesca avait pris conscience de la situation, elle lui avait demandé, un peu confuse, d'effacer le message qu'elle avait laissé sur le répondeur de Jonathan et de ne surtout pas lui en parler. « Un moment de faiblesse », avait-elle confessé. Madeline avait compris. Elle lança le navigateur du smartphone et tapa le nom de Francesca dans la section « Images » du moteur de recherche. Dans sa jeunesse, tout en poursuivant des études de management, l'héritière avait travaillé comme mannequin pour de grandes marques de mode. Les premières photos dataient des années 1990, et la montrait sur des podiums et dans des publicités. Selon les clichés, elle avait des airs de Demi Moore, Catherine Zeta-Jones ou Monica Bellucci. S'affichèrent ensuite de nombreuses poses avec Jonathan, preuve que, pendant ces années heureuses, le couple n'avait pas hésité à utiliser sa vie privée pour accroître la popularité de son entreprise. La pluie se fit plus dense. Le tonnerre gronda, la foudre s'abattit près de la maison, mais, plongée dans son cyberespace, Madeline ne s'en aperçut pas. Ses doigts glissèrent sur l'écran tactile et cliquèrent sur une vignette qui la renvoya au site web du magazine Vanity Fair. Quelques années auparavant, le Paris Match américain avait consacré 6 pages au couple sous le titre « La cuisine, c'est de l'amour ». Une longue interview et des photos assez glamour qui n'avaient qu'un lointain rapport avec la gastronomie. Sur l'une d'entre elles, on pouvait voir que le couple s'était fait tatouer une inscription identique sur l'omoplate droite. Madeleine Zuma, pour déchiffrer l'épigraphe, « You'll never walk alone. Tu ne marcheras jamais seul. » C'était beau, à condition d'être certain de rester ensemble toute la vie. Car aujourd'hui, avec du recul, la photo avait quelque chose de pathétique. «
Chérie, tu vas prendre froid !» lança Raphaël en ouvrant la porte.
« Je rentre, mon cœur !» répondit Madeleine sans lever les yeux du téléphone.
En passant d'un cliché à l'autre, une évidence lui sauta aux yeux. Selon qu'elle se trouvait seule ou en présence de Jonathan, l'attitude de Francesca se métamorphosait. Le top modèle félin, sûr de son pouvoir de séduction, se transformait en femme amoureuse aux yeux de Chimène. Même derrière les mises en scène à destination des journalistes, l'amour que se portaient ces deux-là ne faisait aucun doute. « Qu'est-ce qui les a séparés ?» se demanda-t-elle en rejoignant le salon.
Pourquoi se sont-ils séparés ? Demanda Charlie en rangeant sa canne à pêche dans le coffre de la voiture.
Qui ?
Tes parents ?
Jonathan fronça les sourcils. Il tourna la clé de contact et, d'un geste, ordonna au gamin de boucler sa ceinture. Le mini-break quitta Bodega Bay et mit le cap sur San Francisco. Tout en conduisant, Jonathan ouvrit son portefeuille pour y prendre la photo délavée d'un petit restaurant de province.
Tes grands-parents avaient un restaurant dans le sud-ouest de la France, expliqua-t-il en montrant le cliché au gamin.
La Chevalière,
épla Charlie en plissant les yeux pour déchiffrer la pancarte.
Jonathan approuva de la tête. Lorsque j'étais encore enfant, pendant quelques mois, mon père a aimé une autre femme, la représentante d'une grande marque de champagne qui fournissait son établissement.
Ah ?
Cet amour a duré plus d'un an. Comme dans les petites villes, les rumeurs se répandent vite, ils ont pris garde à tenir leur histoire secrète et ils y sont parvenus.
Pourquoi ton père a-t-il fait ça ?
Jonathan baissa sa visière pour éviter d'être ébloui par le soleil de midi.
Pourquoi les hommes trompent-ils leurs femmes ? Pourquoi les femmes trompent-elles leurs maris ?
Il laissa la question en suspens quelques secondes, un peu comme s'il réfléchissait à haute voix.
Il y a des tas de raisons, j'imagine.
L'usure du désir, la peur de vieillir, le besoin d'être rassuré sur ses capacités de séduction, l'impression qu'une aventure ne va pas porter à conséquence. Des explications sans doute très valables. Je ne peux pas te dire que j'excuse mon père, mais je ne lui jette pas la pierre non plus.
Donc ce n'est pas pour ça que tu ne lui parlais plus lorsqu'il est mort ?
Non, chérie, ce n'est pas pour ça. Mon père avait d'autres défauts. Mais malgré son infidélité, je n'ai jamais douté de son amour pour ma mère. Je suis certain que son adultère l'a beaucoup fait souffrir. Mais la patience est comme la drogue. Au début, tu penses la maîtriser, puis un jour, tu dois bien admettre que c'est elle qui te maîtrise. À la fois surpris et un peu gêné par ses confessions, Charlie regarda son père d'un drôle d'air dans le rétroviseur intérieur, mais Jonathan était lancé. Finalement, il est parvenu à se désintoxiquer de cette femme. Mais 6 mois après le terme de cette aventure, il n'a rien trouvé de mieux que de confesser son adultère à ma mère.
Pourquoi ?
Demanda le gamin en ouvrant de grands yeux. Je pense qu'il s'en voulait et qu'il se sentait coupable.
Jonathan mit son clignotant pour se garer devant l'unique poste à essence d'une vieille station-service.
Et ensuite ?
Demanda l'enfant en suivant son père. Jonathan décrocha le pistolet de carburant.
Il a supplié sa femme de lui pardonner. Comme ils avaient 2 enfants, il lui a demandé de préserver leur famille. Mais ma mère était dévastée par cette trahison. Son mari avait abîmé leur amour et gâché tout ce qu'ils avaient construit. Alors, elle lui a refusé son pardon et elle l'a quitté.
D'un seul coup ?
Jonathan paya son plein et regagna la voiture.
Ta grand-mère était comme ça, expliqua-t-il en repartant. C'est-à-dire ?
C'était une grande amoureuse, une grande idéaliste, exaltée et passionnée.
Brutalement, elle a pris conscience que la personne qu'elle aimait le plus au monde était capable de lui mentir et de la blesser. Elle disait souvent qu'au sein d'un couple, la confiance était primordiale. Elle disait que, sans confiance, l'amour n'était pas réellement de l'amour. Et sur ce point, je crois qu'elle avait raison. Comme Charlie avait oublié d'être bête, il ne put s'empêcher de remarquer. « Ça ressemble à ce que tu as vécu avec maman. »
Jonathan acquiesça.
« Oui, pendant des années avec maman, on n'a fait qu'un. On partageait tout, et notre amour nous protégeait de tout. Mais un jour l'amour s'en va. Et il n'y a rien d'autre à dire. »
Charlie hocha tristement la tête, et puisqu'il n'y avait rien d'autre à dire, resta silencieux jusqu'à la maison.